La bande du jeudi. La bande du jeudi.
Ce n'est pas le début de saison qu'on espérait. 4 matchs, 4 défaites pour le HC Ajoie dans cette QV 2025-2026, commencée il y a un peu plus d'une semaine. Les temps sont du rapport entre eux malgré les bonnes intentions affichées. Dans ce podcast, nous reviendrons et analyserons le début de saison des Vouivres, un moment que nous partagerons avec le premier buteur de la saison à Joulotte, Louis Robin.
La bande du jeudi. La bande du jeudi.
Bonsoir et bienvenue dans notre podcast dédié au HC Ajoie. Cette deuxième émission de la saison sera largement consacrée au début de saison manqué de l'équipe Ajoulotte qui occupe déjà le dernier rang du classement sans le moindre point au compteur après 4 matchs. 4 défaites donc, 19 buts encaissés, seulement 5 marqués. Et pour décortiquer ces premiers coups de patin, j'ai le plaisir d'accueillir mes collègues de la bande du jeudi. Salut Yann.
Salut tout le monde.
Salut Rafi.
Bonjour tout le monde.
Et puis on sera aussi accompagné aujourd'hui donc de Louis Robin. Salut Louis.
Salut à tous.
Merci d'être avec nous. Ensemble, on va donc revenir sur le début de saison des Jaunes et Noirs, ce qui va nous occuper pendant la prochaine grosse demi-heure.
La bande du jeudi.
On accueille aujourd'hui dans ce rendez-vous de la bande du jeudi le premier buteur de la saison du HC Ajoie, Louis Robin. Louis Robin donc qui a marqué, c'était du côté de Genève, un mardi il y a maintenant un peu plus d'une semaine pour ouvrir la voie. C'était le premier but de la saison et le premier but du match aussi. Après ça s'est un peu gâté avec cette défaite 5-3 du côté de Genève.
Ouais, Louis Robin, tu as 22 ans, tu joues ta deuxième année au HC Ajoie et tu nous visites pour la deuxième fois ici à la botte du jeudi. Et si tu es là, c'est aussi parce qu'on trouve que tu as réalisé un bel été, en tout cas une préparation qui laisse augurer de belles promesses pour toi cette saison. Tu trouves aussi, tu te sens comment en ce moment?
Je me sens bien personnellement. Et ouais, bah, comme tu l'as dit, je pense que j'ai fait un assez bon été du plan physique et sur la glace. Et j'essaye de tout mettre en œuvre justement pour faire encore une meilleure saison que la saison passée.
Ouais, t'as changé quelque chose dans la manière d'aborder ce nouvel exercice. T'as appris peut-être aussi de cette première saison passée au HC Ajoie, une première vraie pleine saison en National League.
Ouais, bah c'est sûr, on apprend en côtoyant les joueurs plus expérimentés dans l'équipe et en affrontant justement ces top joueurs dans la ligue. Et que je pense qu'il y a toujours des trucs à en retirer après la saison. Puis après, ouais, moi cet été, surtout essayer de travailler sur un peu plus tout ce qui est la confiance en soi pour être confiant et puis être persuadé que si les autres joueurs peuvent marquer des goals ou faire ce genre de choses, que moi aussi je peux en être capable.
Le petit événement pour toi cet été là, c'était le coup de fil entre guillemets de Patrick Fischer et cette expérience avec l'équipe de Suisse dans le cadre du Prospect Camp là. Ça t'a même obligé à zapper tes vacances paraît-il. T'as fait quelques jours à Davos, t'as notamment joué je crois avec Théo Rochette et Miles Muller dans la même ligne, c'est ça?
Exact.
On vit comment de tel moment?
Bah franchement c'est que du positif quoi. C'est un peu tous les meilleurs jeunes moins de 25 ans de la Suisse qui sont regroupés, donc c'est bien d'échanger, de regarder ce qu'ils font aussi sur la glace, de prendre aussi deux trois astuces à gauche à droite parce qu'il y a quand même de top joueurs, donc non, c'était bénéfique pour moi.
Et ça veut dire quoi une telle sélection? Ça peut en appeler d'autres? Ça serait quoi la suite?
Alors bah moi c'est ce que j'espère, être pouvoir appeler à d'autres événements avec l'équipe nationale. Après c'est pas une certitude, tu vois, c'est pas du tout sûr que même l'année prochaine que je sois de nouveau invité à ce camp-là. Donc oui, bah c'est sûr, c'est valorisant, puis ça fait plaisir. Mais après c'est entre guillemets, ça veut rien dire quoi. Y a rien d'acquis, y a rien de concret.
Bon, on a parlé de la préparation aussi, ce camp. Et puis, il y a ce début de saison, là, avec ce premier match à Genève et ce 0-1 d'entrée, un tir croisé. Là, c'était bien parti pour le HCA, là, à ce moment-là. Et tu évolues désormais dans le premier trio. Ça donne aussi un petit peu des responsabilités, un peu de pression aussi.
Bah, de la pression, je pense que sur, peu importe sur la ligne sur laquelle tu joues, t'as de la pression parce que, bah, à chaque match, on veut gagner puis on doit gagner. Donc, t'as, entre guillemets, une pression, mais je pense qu'elle est positive. Mais, non, ça fait plaisir d'avoir la confiance et de pouvoir jouer avec la première ligne, mais ouais, la pression, je pense que tu l'as de toute manière.
Et puis voilà quoi, l'état actuel du HC Ajoie à la saison, c'est 4 défaites là. Mardi soir, c'était face à Rapperswil. Comment était l'ambiance dans le vestiaire après cette nouvelle défaite? Vous dites quoi après un tel match?
Bah là, c'était un peu compliqué parce qu'en soi, je trouve que dans l'ensemble, on a fait un bon match, on a eu nos chances, mais on les a pas saisies. Puis ça fait un peu mal parce que ils ont pas énormément de chances. Et puis dès qu'ils ont une occasion, bah, ils la mettent au fond. Donc bon, c'est quelque chose à prendre en compte, puis à apprendre aussi que voilà, que chaque erreur est coûteuse et puis que ça peut amener à un goal. Donc ouais, ça fait un peu mal parce que je trouve que sur les derniers matchs, malgré les résultats, on joue quand même d'une bonne manière, on fait des choses positives et puis bah, le résultat n'est pas là, mais ouais, je pense que quand même il y a du positif à en tirer.
C'était la saison passée. Est-ce que cette saison ressemble au début de saison passée là où tu vois quand même un petit peu des choses un peu plus positives?
Non, je pense que ça ressemble pas forcément à la saison passée. Bah peut-être que les résultats c'est la même chose, mais je trouve dans l'ensemble, dans l'esprit qu'il y a dans l'équipe, les choses qu'on met en place et puis ouais, l'ambiance, je pense qu'elle est quand même meilleure et puis on est entre guillemets je pense qu'on est meilleur que l'année passée, donc il y a aucune raison qu'on n'aille pas chercher des points sur les prochains matchs.
Oui, j'ai une petite relance par rapport à ça en lien avec ce qui s'est passé la saison passée. On le sait, il y a eu cette défaite de suite, il y a eu très peu de points sur le premier tour. Vous le ressassez dans votre tête quand même, vous les ressassez ces moments-là dans votre tête maintenant qu'on a ces quatre défaites de rang ou pas du tout, on va en faire abstraction?
Alors, en équipe, on n'en a pas forcément abordé ce sujet parce que c'était pas forcément une période agréable pour tous et bah, le coach n'était pas là à cette période-là, donc c'est pas forcément quelque chose qu'on va en parler en groupe. Mais après, je sais pas comment les autres joueurs le vivent personnellement, mais ça se peut qu'il y en ait qui se revivent le scénario vu que bah, c'est un petit peu un scénario qu'on a déjà vécu.
Et du coup, il y a la canne qui tremble à un moment donné quand même. Quand on arrive au cinquième match, là, on va aller du côté de Lugano, on va recevoir Berne. En fonction de comment ça se passe, il y a un petit peu d'anxiété qui revient par rapport à la réaction que pourrait avoir le grand public aussi, vos supporters, etc.
Non, je dirais pas de l'anxiété. Bah, c'est sûr, il y a peut-être une petite pression supplémentaire parce que maintenant, on sait qu'il faut qu'on gagne les prochains matchs. Mais c'est comme j'ai dit avant, tous les matchs, on sait qu'on doit les gagner et que tous les points sont importants. Donc, alors oui, il y a peut-être une petite pression supplémentaire, mais pas de là à avoir la canne qui tremble et puis plus savoir faire une passe.
Ouais, je crois que tout le monde l'a vu hein, avant la saison, ce début de saison du HC Ajoie contre trois gros cylindrés. On a joué vraiment trois équipes qui ont très bien commencé leur championnat. Bon, pour Genève, ça s'est mal passé hier soir, ça c'est clair. D'ailleurs, ça peut peut-être occulter les défaites du HC Ajoie, mais c'est peut-être pas forcément la meilleure façon de débuter un championnat pour le HC Ajoie. Donc, Robin parle beaucoup de confiance. Hein. Louis, il a raison. C'est vrai que quand tu Si t'arrives en championnat, on a vu des équipes comme Langnau aller gagner des points assez rapidement dans le truc. Donc les joueurs se sentent beaucoup plus libérés rapidement. Et puis les petites erreurs peut-être qu'on accumule sur ces derniers matchs, elles disparaissent d'elles-mêmes parce que tu joues plus en confiance. Donc la fraction de seconde de décision, le hockey on le sait, c'est beaucoup de choix, c'est beaucoup de décisions pendant le match. On a vu sur le premier goal, Onka fait peut-être une mauvaise décision. Mais après, il en fait 20, 30, 40 autres qui sont très bonnes. Il faut maintenant peut-être retrouver la confiance, puis jouer un peu plus libéré, pas se focaliser, justement revenir toujours avec les défaites de l'année passée, et puis se dire que de toute façon, avec l'éthique de travail que l'équipe monte, parce que je suis d'accord avec Louis, l'équipe travaille beaucoup, elle travaille juste, elle commet des erreurs par moment qui se payent cash, mais je pense que le travail que tous les joueurs font, ça va payer à un moment donné.
J'ai une question par rapport au vestiaire, Louis. Rafi, t'as déjà posé la question avant, mais dans une autre mesure, je voulais voir avec toi un petit peu l'impact que les joueurs d'expérience que le HCA voulait et a réussi à signer. On pense à Freeman, champion olympique, champion du monde, Motet qui a connu l'équipe de Suisse et bien d'autres aventures, Vic qui a connu des saisons et des saisons en National League. Comment ces joueurs-là, ils agissent dans le vestiaire depuis une grosse semaine maintenant et c'est contre-performance en quelque sorte.
Je pense que oui, quand ils arrivent quand même un peu à savoir, à sentir aussi l'équipe quand elle est un peu stressée ou en manque de confiance, et puis ils arrivent un peu à trouver les mots entre les périodes ou avant les matchs pour dire sur les points où faut être fort ce soir, faut être concentré, on panique pas, on sait que même s'il y a une erreur, deux erreurs, on sait qu'on peut toujours revenir et puis si on travaille tous les soirs pendant 60 minutes et puis qu'on se fait pas trop de soucis sur tout ce qu'il y a extérieurement, les choses vont bien se passer. Donc c'est sûr qu'ils aident, et puis même sur le banc, ils apportent quand même une espèce de sérénité qui est importante.
Tu en as parlé avant, dans ta préparation d'été, tu disais que tu as beaucoup bossé sur la confiance puis l'aspect mental. Tu t'es entouré d'un coach mental, que c'est beaucoup la mode maintenant dans le sport en général. Je crois que des équipes comme Sou ont à temps plein un coach mental. T'as fait appel à ces services?
Ouais, ça fait quelques années que j'en ai un. Et l'année passée, j'avais commencé vraiment à travailler sérieusement là-dessus. Puis cet été, j'ai encore un peu mis l'accent dessus. Parce que je pense que c'est quand même quelque chose d'important. Parce que des fois, la différence entre deux joueurs, techniquement parlant ou physiquement, il n'y en a pas une énorme. Mais souvent bah, ça se remarque avec les étrangers qui sont des fois même pas spécialement plus forts sur la glace entre guillemets d'un aspect technique que certains joueurs, mais c'est juste parce qu'ils ont une telle confiance que tout va dans leur sens. Et je pense que c'est un peu le même résultat des équipes quoi. Si une équipe est en pleine confiance, des fois tout marche, tout va dans leur sens, tandis que bah, nous c'est un peu ce qui est l'effet contraire en ce moment. C'est chaque petite erreur bah, ça coûte un goal, mais je pense qu'aussitôt que le momentum il tournera, bah, tous les petits trucs iront dans notre sens.
Débrief. Bien, ben on va se lancer dans le débriefing un peu plus concret de ces premières sorties du HC Ajoie. Il y en a eu 4, on l'a dit, 4 défaites. On va dire les premières étaient peut-être plus conséquentes que la dernière qu'on a vécue à Porrentruy à Rapperswil, avec une somme de tirs cadrés largement à la faveur du HC Ajoie, des occasions nettes aussi en faveur du HC Ajoie, mais au final un score plutôt favorable pour Rapperswil. Si on cumule les premiers matchs, j'ai donc décerné 3 types d'étoiles. Hein. Je les fais dans l'ordre et on les développe ensuite ensemble si ça vous convient. J'ai mis 3 étoiles à Philippe Michael DeVos, j'ai mis 2 étoiles à Jérémy Vic et 1 étoile. Ça a été un choix compliqué, mais à toi, Louis, non pas parce que tu es notre invité, mais parce que tu la mérites. À mon sens, mais tu as bien fait de venir, effectivement. Voilà donc pour ce qui est des étoiles de cette semaine. Je vous avoue que c'était assez compliqué quand même par moment de pouvoir sortir un joueur plutôt que l'autre du panier, mais enfin, voilà mon trio. Je ne sais pas ce qui vous inspire.
Mais c'est vrai, tu as raison, il n'y a pas vraiment des individualités fortes qui se sont mis en évidence sur ce début de saison. Il n'y a pas eu de grosses actions, de gros coups, de grosses performances. Et puis, ouais, je pense que les 3 étoiles à Phil, c'est plutôt bien vu.
Je peux partager avec toi, ouais. Mais ouais, c'est que finalement, dans chaque match, on a une histoire différente, on a des joueurs peut-être qui se mettent un peu plus en valeur que d'autres. Et puis, c'est peut-être un des points à améliorer, c'est que on a des joueurs qui brillent par moment, mais il faudrait maintenant que toute la constellation s'aligne et puis que tout le monde brille en même temps pour que l'équipe puisse prendre plus confiance, par vraiment des situations de match où on est plus en confiance.
Oui, si je développe un petit peu mes choix peut-être, et on peut éventuellement les décortiquer ensemble, s'il y avait des choses à ajouter, mais j'ai mis Phil effectivement à 3 étoiles, ben, par les stats d'une part, hein, c'est lui qui a les meilleurs jusqu'à présent, hein, 3 points, 2 buts, 1 assist, mais je trouve au-delà de ça que dans l'attitude, c'est... Bon, on le sait, on l'a répété et redit presque à chaque bande du jeudi, mais dans l'attitude, c'est un leader, on le voit, il baisse jamais les bras. Je crois que c'est encore lui, enfin c'est lui qui réduit la marque contre Rapperswil, il a encore une grosse occasion dans la foulée, preuve s'il en fallait une qu'il a jamais vraiment, c'est un moteur. Et puis qualitativement, voilà, il est reparti sur de bonnes bases malgré un HCA qui tousse un petit peu en ce début de saison. Je crois que lui parvient quand même à maintenir ses performances à flot, même si, comme tout le monde, j'ai envie de dire, il en a encore un petit peu sous les patins quand même, quoi.
Ouais, Yann, il a raison. On attend beaucoup plus de régularité. On attend des matchs pleins. Et puis, il faudra passer par des matchs pleins pour en gagner. Phil, il a cette faculté. On l'a vu face à Genève et aussi mardi soir d'être décisif dans le slow, d'avoir ce sang-froid pour marquer des buts, quoi. C'est à chaque fois des buts pour aller essayer de rattraper le score. Mais voilà, quoi. Il est fidèle à lui-même. Et puis, voilà, quoi. Au passage aussi, c'est désormais le meilleur compteur de l'histoire du club, donc c'était aussi à saluer.
Yann, tu as quelque chose à ajouter? Pas spécialement.
Rien à ajouter de plus, tout a été dit.
Et puis toi, Louis, Phil, c'est un exemple pour toi dans le vestiaire?
Ouais, bah c'est sûr, puis c'est quelqu'un de passionné, quoi. Tu le sens, il mange hockey, il dort hockey, quoi. Il adore ça, puis lui, ça lui tient vraiment à cœur, que ce soit le club ou de faire des bons matchs, c'est vraiment quelque chose qui... Bah voilà, il travaille fort tous les jours pour, et puis ouais, je pense qu'il y a quelqu'un où on peut pas dire grand chose sur l'éthique de travail, il en fait partie.
Éthique de travail, je pense qu'il en a aussi. Le suivant, c'est Jérémy Vic, à qui j'ai mis 2 étoiles. Lui aussi s'avère comme un moteur de ce HCA. On le voit aussi à l'entraînement donner des consignes, rester sur la glace pour encadrer. Tu en as parlé tout à l'heure dans le vestiaire comme étant aussi quelqu'un qui prend volontiers un rôle de leader. Il le démontre aussi sur la glace. On voit que c'est un gars qui peut apporter, quoi. Ce sera pas le plus flamboyant, le plus techniquement à faire lever les foules, mais enfin, c'est quelqu'un qui est juste. Il a aussi déjà été impliqué sur 2 buts, je crois, avec 2 assists. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui peut apporter une profondeur qu'on attend d'un point de vue helvétique au HC Ajoie. On voit que Highland a aussi panaché les lignes pour trouver encore les bonnes formules, mais je pense que c'est quelqu'un sur lequel on, sur qui on peut compter. On voit qu'il va, il a pas peur d'aller là où ça fait mal aussi. Il a du métier, il a un bagage. Et puis je crois que dans ses premiers matchs, c'est plutôt cette, ce côté rassurant qu'il a donné au HCA quant à ses capacités qui me font lui mettre aujourd'hui 2 étoiles, quoi.
Ouais, c'est un petit peu symptomatique de ce début de saison. Tu donnes 2 étoiles à un joueur qui a finalement réalisé 2 assists en 4 matchs. Mais après, on connaît le joueur, on connaît cette bonne agressivité qu'il peut amener à l'équipe aussi. Et puis, une sorte de certaine polyvalence aussi. On le voit prendre des engagements, notamment aux côtés de Philippe Michael de Vos. Ouais. Et puis là, il peut jouer au centre, il peut jouer à l'aile. Oui, son ajout va faire du bien au collectif jurassien. C'est une évidence.
Qu'est-ce que tu penses, Yann, de ce début de saison de Jérémy Vic?
C'est quelqu'un qui a la plus grande partie de sa carrière derrière lui, mais on sent quand même qu'il est venu à Joie, pas en pré-retraite, mais qu'il a encore envie d'avoir du hockey, il a envie de jouer, on voit dans l'intensité qu'il met. Et puis il est utile sur plusieurs phases, comme tu l'as dit, dans la pression, dans l'expérience, en box-play, c'est un joueur assez complet. Et puis c'est un ajout dont on avait besoin pour pouvoir un peu entourer les jeunes talents qu'on a à Ouacha Joie.
Bonne pioche, Louis.
Ouais, je pense que vous avez assez bien résumé le joueur, quoi. Sur la glace, il est fiable, on peut l'utiliser dans pas mal de situations. Puis, c'est un joueur complet, il est dur, il est bon défensivement, il est bon offensivement. Donc je pense que c'est un bon atout pour notre équipe.
Et du coup, j'ai mis une étoile à notre invité du jour, Louis Robin, parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime ce côté artistique, entre guillemets, cette... prise d'initiative, ça manque, je trouve, cruellement au HCA, d'autant que Jonathan Hezen est pour l'instant cantonné à un rôle de spectateur, mais on a besoin de joueurs qui sont capables d'illuminer les matchs, qui prennent des initiatives. Je crois que Louis en est un exemple parfait. Ce but marqué en ouverture de saison à Genève, il vient un peu de nulle part, mais il y a un peu qu'un gars comme toi qui peut le mettre, parce que tu prends le puck et puis tu te dis pourquoi pas. Et puis, t'essaies beaucoup de choses. Je crois qu'à Davos, t'es aussi proche de marquer un but. Il y a de l'initiative, c'est pas encore totalement et tout le temps récompensé. Mais enfin, ça, c'est des éléments, des artifices qui font qu'un match peut basculer et puis on en a diablement besoin à WHCA.
Ouais, Louis Robin, moi, le déclic, je le vois déjà l'année passée à l'arrivée de Greg Ireland. Je crois que on l'a tous vu comme supporter, puis comme fan du HCA, à partir du moment où il a eu plus de temps de glace, plus de responsabilité, dans la ligne avec Garesu à l'époque, on a vu les deux jeunes là, qu'on montait jusqu'à la fin de saison. Pendant les play-outs, il a eu un rôle encore un peu plus important dans la ligne avec Belmar. Et puis ce début de saison, il est dans la lignée. Je trouve qu'il a fait beaucoup de progrès dans la conservation du puck. Peut-être des fois de l'année passée, on pouvait le trouver un peu léger. On sait que sa taille, c'est pas forcément son principal atout, mais quand on voit des joueurs comme Ramel à Cloton ou Vetter à Rapperswil, c'est des petits gabarits mais qui sont très solides, puis surtout très intelligents. Et puis Louis, il a cette intelligence, il a la rapidité, il a la technique, il a le package pour devenir un grand joueur de National League. Et puis il a l'avenir devant lui.
T'es d'accord avec ça, Louis?
Ouais, c'est d'accord. Je vais pas dire non. Merci des compliments, mais je pense que j'ai fait quand même j'ai pris un step par rapport à la saison passée. Et c'est sûr, il y a toujours des choses à améliorer, mais t'as cité des bons exemples, surtout comme Micha, que j'ai aussi côtoyé cet été, où il est encore plus petit que moi en taille. Et puis c'est ça aussi où tu vas sur la glace avec, puis en fait tu te dis il est autant bon que moi, enfin je suis autant bon que lui, donc je suis tout autant capable de faire les mêmes choses qu'il fait, quoi. Donc
on te parle souvent de cette taille, hein.
Ouais, souvent, mais à force, j'ai pris l'habitude, j'ai envie de dire, mais moi, c'est pas quelque chose qui me dérange, quoi. C'est pas comme si je pouvais changer ma taille non plus, donc faut faire avec.
Ok, on passe à l'épine. C'est vrai qu'on a un petit peu, malheureusement, j'ai envie de dire, l'embarras du choix. Hein. C'est vrai qu'on aurait pu décerner des épines à plusieurs éléments. Je l'ai mise à Niklas Freeman. Comme toi, la semaine passée, Rafi, non pas pour uniquement punir Niklas Freeman, mais par rapport à ce qu'on en attend et le rendu qu'on en a pour le moment, je pense que c'est celui qui la mérite. Il est impacté directement sur plusieurs buts encaissés par le HCA. 3, en tout cas, à mon sens, vraiment directement impliqués. Il y a des erreurs aussi à la relance qui sont fatales, alors que c'est censé être son point fort. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est son déplacement, son côté mobile qui manque clairement. Il est lent, pour parler bon français, jusqu'à maintenant en tout cas. Je mets aussi un petit bémol, une petite parenthèse. On en a déjà parlé la semaine passée, parce que j'ai repris les épines qu'on avait mis l'an dernier. Et sur les 3 premières émissions, je crois que c'est Turkoulainen et Nettinen, alors que c'est eux qui nous ont finalement portés. Donc, Peut-être a-t-il encore besoin d'un temps d'adaptation et certainement est-il pressé dans le vestiaire. On en a parlé, Louis, et on le voit à l'entraînement aussi. C'est un gars qui reste sur la glace très longtemps à parler avec les jeunes, à les encadrer. Ça, on n'en parle pas, mais sur le rendu sur la glace pour un étranger qui est champion du monde et champion olympique, à mon sens, pour le moment, c'est clairement largement insuffisant.
Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve que c'est un homme qui actuellement est en manque de confiance. Et puis, mardi soir, face à Rapperswil, quand il marque ce premier but après 30 secondes, je me dis, ah ben tiens, ça va le décrisper. Ouais. Peut-être que ça, c'est le truc qui va lui permettre mettre un petit peu de se libérer, et puis finalement ça n'a pas été le cas. Mais moi, ce qui me surprend quand je le regarde, c'est son body language. Je trouve que sa posture sur la glace, il montre pas une attitude du leader qu'il doit être, quoi. Et puis tu le dis aussi, il est souvent pris de vitesse. Alors ouais pour l'instant c'est clairement une déception, ce début de saison de Niklas Freeman.
Je vais jouer l'avocat de la défense. Il y a faut un, il arrive d'un championnat qui joue où ça joue vraiment tout différent que le championnat suisse. Le championnat suisse, on sait que c'est un des championnats les plus rapides. Vous l'avez dit, sa vitesse, ça a apparu peut-être sur quelques situations. C'est pas ce qu'il a de meilleur, mais dans le positionnement, je pense, dans ce qu'il peut amener à l'équipe, et ça va venir au fil des matchs. Je pense que, les épines de l'année passée prouvent que il faut un temps d'adaptation quand même pour jouer en Suisse. Et puis il faut se mettre dans le système ici de jeu, il faut se mettre dans cette nouvelle culture finalement, parce que il change de pays, il y a un peu des déracinements. Et puis il faut encaisser. Et puis on va lui donner quand même du crédit quand même, parce que oui, il est pas élégant à voir sur la glace, il est un peu voûté, c'est pas le plus beau joueur à voir, mais il fait quand même du bien. Et puis il est peut-être un petit peu trop utilisé en ce début de saison pour pouvoir bien s'acclimater.
Louis, tu veux être rassurant aussi quant aux qualités de Niklas Freeman par rapport à ce que toi tu vois au quotidien?
Moi, je pense que ça me fait un peu penser comme quand j'avais été invité l'année passée, puis c'était avec Turkulainen, et puis que j'avais dit je pense qu'il faut un peu de temps justement pour s'acclimater. Je pense que là c'est un peu le même scénario, quoi. Il faut un peu de temps pour s'acclimater, parce que c'est sur la ligue, c'est pas le même jeu, pas le même système, donc il y a un peu tout qui est différent. Mais je pense qu'avec du temps puis une bonne adaptation, ça va se décliquer.
Ouais, quand Onka est arrivé, il a aussi donné des buts à l'adversaire. Tima Schoof aussi quand il est arrivé. Peut-être Brennan aussi. On a été plus indulgents avec ce genre de joueur. Mais là, il doit clairement peser beaucoup plus dans le jeu défensif du HC Ajoie. C'est ce qu'on attend d'un leader des Bazariers.
La bande du jeudi. La bande du jeudi.
On a décidé pour la suite de ce podcast de nous pencher sur les choix de Greg Hyland. Il y en a beaucoup à discuter, à décrypter. On va peut-être aller les prendre les uns après les autres et puis discuter ensemble de ce qu'on en pense. Déjà, moi, il y en a deux qui me paraissent incontournables. Le premier, c'est peut-être le gardien. Ça, c'est peut-être le point central avec Benjamin Cohns, qu'on n'a pas encore vu. On s'attendait certainement tous à le voir. Il a annoncé sur Numéraire. Finalement, il a fait qu'une apparition en tant que remplaçant à Davos, sinon même pas convoqué. Trois fois Chacho, une fois Patnaud dans les buts. C'est particulier. On aurait peut-être certainement espéré, en tout cas pour beaucoup, qu'il entre dans le tournus de ce début de saison pour qu'il puisse prouver ce qu'il vaut. Visiblement, il n'est pas dans les plans de Greg Hyland, et on peut légitimement s'en étonner, à mon sens.
Ouais, exactement. Moi, je suis un petit peu de la vieille école. Moi, j'ai toujours aimé quand une équipe avait un gardien numéro 1 et un gardien numéro 2, ou 1A et 1 bis. Là, on est dans une situation comme dans un ménage à trois. On a trois gardiens qui sont capables de jouer en National League avec Patnaud, Chacho et Benjamin. Et c'est clair que ce temps de jeu qu'on n'a pas encore accordé à Benjamin, ça peut donner une configuration un peu conflictuelle. Surtout que quand on voit les statistiques des gardiens au début de saison, on tourne entre 85 et 88%. C'est clairement insuffisant pour une équipe comme le HC Ajoie. On doit être au-dessus des 90% si l'équipe veut avoir une chance de s'en sortir. Et oui, c'est surprenant de ne pas avoir déjà vu Benjamin titulaire sur l'un de ses quatre premiers matchs.
Situation un peu inédite au HC Ajoie. C'est vrai que on a eu par rapport au moment des gars comme Tim Wolf, qui avait plutôt le leadership et qui était numéro 1. Ça fait maintenant deux ans à peu près qu'on se partage plutôt le but du côté d'Ajoie. Cette année, nouvelle configuration, parce qu'on a Patnaud qui entre dans la danse. Moi, j'étais plutôt content de cette chose-là, d'avoir trois gardiens, dont un jeune qui rentre en concurrence. Mais voilà, la concurrence dit que gardien, il n'y a qu'une place dans les buts. Il y en a deux qui sont convoqués à chaque match, et puis ça fait que le troisième doit être dans les tribunes. Donc la gestion du groupe, là, elle se vit vraiment dans le vestiaire. À partir du moment où les choses sont peut-être discutées et claires entre le coach et les gardiens, ça amène pas de conflit. Après, voilà, nous, c'est vrai que depuis l'extérieur, en tant qu'Ajoula aussi, on a envie de voir Benji dans les buts, mais la saison, c'est 52 matchs, avec des play-outs, des play-offs, des play... on verra. Donc on aura besoin de lui à un moment donné, et puis je suis sûr qu'il va répondre présent.
Au-delà de parler de Benji, c'est un cas qui, pour moi, une situation qui, pour moi, est insoluble. Il n'y a pas de solution, on est dans une impasse totale, dans le sens qu'on a trois gardiens, les trois ont le niveau, on a, entre guillemets, que 50 matchs, parce que certes, c'est beaucoup, mais c'est aussi peu à la fois. Quand on a des gardiens comme eux qui veulent enchaîner, on en a deux qui ont besoin d'enchaîner parce qu'ils ont un certain âge, entre guillemets, l'expérience, et que les deux sont des profils à enchaîner. On en a un qui a tout approuvé et qui, du coup, ne va pas se contenter que de miettes. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans un mode où là, on fait des choix. Certes, pour l'instant, il y a eu un petit tournus au début de saison. Celui-là, il peut se justifier. Mais au bout d'un moment, quand un s'installera vraiment, si un s'installe vraiment, admettons que Patnaud joue vendredi et samedi, par exemple, il blanchit les deux fois. Ça n'arrivera peut-être pas. Mais enfin, si ça arrive, qu'est-ce qu'on fait, quoi? On est vraiment dans une situation où on en a certes un qui est remplaçant. Ça, on peut le tolérer parce que c'est partout le cas. On en a un troisième qui va regarder, quoi. Et alors, si on avait la bonne patte, Patnaud, il y a une, deux saisons, apprêté à gauche, à droite parce qu'il était jeune, force est de constater que de son âge, c'est quand même un grand talent, et que l'avenir, à part entre lui, c'est peut-être et même certainement lui. Et peut-être que, du coup, là, on est quand même dans une forme de problème qui n'a pas de solution, quoi, si on continue à tourner à trois.
Situation idéale, il faut qu'un gardien performe pour qu'il soit aligné et qu'il fasse les matchs, comme ce fut le cas à un moment donné la saison passée avec Benji, qui a joué plusieurs matchs consécutifs, je crois que c'était au mois de novembre. On verra ce week-end maintenant. Il y a le déplacement vendredi à Lugano, il y a la réception de Berne samedi. J'imagine que ce ne sera pas le même gardien qui fera le week-end, donc on verra si Benjamin Cohn ça a la confiance du staff des coachs.
Sur ce cas-là, quelque chose à ajouter? Louis, pas forcément? Oui, non?
Je suis pas trop du côté des gardiens, ça c'est pas trop mon domaine, donc en vrai, les choix qui sont pris à ce niveau-là, même nous les joueurs, des fois, on n'est pas mis au courant du pourquoi, du comment, enfin, voilà, le choix est un tel, et puis, voilà.
La bande du jeudi.
Il y a un autre cas, je crois, que sur lequel on voulait les trois se prononcer ou qu'on voulait aborder aujourd'hui dans ce podcast, c'est le cas Jonathan Eisen. C'est aussi un cas épineux, puisqu'on l'a pas encore vu sur la glace. Il est annoncé blessé depuis le début de la saison. Je crois que les gens qui le voient à l'entraînement le voient s'entraîner normalement. Louis, je sais pas si tu peux nous confirmer ça. Il s'entraîne normalement, Johnny, depuis quelques jours quand même.
Je crois qu'il revient gentiment à 100%. Ouais.
Voilà. Est-il papable ou non? Le fait est qu'on avait l'impression qu'il l'était par rapport à ce qu'on voyait aux entraînements, mais qu'il ne l'est pas depuis le début de la saison, alors qu'Ajoa a notamment joué deux matchs sans marquer le moindre but. Il aurait peut-être mérité sa chance. Alors on va mettre une petite parenthèse sur le fait qu'il est peut-être encore effectivement convalescent, mais le fait est que, à mon avis en tout cas actuellement, on peut pas, pour moi, se passer d'un tel joueur, d'une classe individuelle pareille, dans une situation comme on la vit aujourd'hui.
Ouais, puis surtout, on a vu le premier tiers mardi soir face à Rapperswil. C'était en amenant de la vitesse aussi qu'on a réussi à déborder cette défense sagalloise qui était au passage assez statique. Et puis, Johnny a cette capacité-là, ce profil que peut-être d'autres mercenaires n'ont pas dans le groupe. Après, est-ce qu'il est à 100%? Ça, c'est la question. Et puis, gentiment, avec ces défaites qui se sont accumulées, l'option devient de plus en plus sérieuse. Mais intégrer Jonathan dans le groupe, c'est enlever quelqu'un, un centre ou un défenseur, c'est deux aspects du jeu qui sont un petit peu entre guillemets problématiques parce qu'il y a des blessés dans ces deux secteurs. Donc est-ce qu'on enlève un Freeman par exemple pour mettre un ailier en plus, est-ce qu'on enlève un Gauthier pour mettre un ailier à la place? C'est des questions qui sont en tout cas légitimes.
Ouais, la blessure de Joe a imposé de devoir aller chercher Gauthier, avec aussi l'absence de Turkulainen. Pour moi, le choix de début de saison de lui laisser une semaine, voire deux semaines de plus pour se rétablir. Vu le type de blessure dont Joe souffrait, je pense que c'est une bonne chose, parce que revenir trop vite, ça pouvait qu'amener une blessure sur le long terme, puis peut-être hypothéquer sa saison. Donc, de lui donner un petit peu de temps, c'était à peu près normal. Après, on aurait voulu, bien sûr, un début de saison un peu différent, où c'est qu'on n'ait pas besoin de forcer son retour. Mais là, c'est vrai que je rejoins Rafi. Je pense que la vitesse et puis le côté un peu imprévisible, puis le côté sniper de Joe Hazon, ben, on en a besoin un petit peu maintenant, quoi. Et c'est vrai que contre Zurich, prendre 4 buts, c'est pas grave. De prendre 3 buts à Davos dans la première partie du match, c'est pas grave. Le problème, c'était les zéros qu'il y avait à côté. On a besoin de marquer. Et puis, pour pouvoir prendre la confiance, il nous faut le maximum de buteurs sur la glace.
Et puis hier, on voit, je trouve, il y a quelques séquences quand même où on est vraiment dans le slot. Tu me corrigeras peut-être, Louis, vu que c'est aussi un endroit où tu es souvent dans le match. Mais sans critiquer tes copains, on n'est pas là pour ça du tout. Mais on voit quand même qu'il a manqué, pour moi, ce geste un peu de renard des surfaces, comme on l'appelle au foot. Mais ce joueur qui, plutôt que la lever au-dessus de la jambière, la mettre dans la jambière, il y a peut-être un aspect de confiance. Mais Johnny, c'est vraiment le gars, il lui en faut pas 10, quoi. On l'a vu en fin de saison passée. Et puis sur un match comme hier, je vais pas dire que s'il avait joué comme mardi Rapperswil, je vais pas dire que s'il avait joué, un joueur aurait gagné. Mais il y a des possibilités où on s'est dit, purée, si Johnny avait été là, peut-être qu'on l'aurait mis celle-là, quoi.
Ouais, bah c'est sûr, Johnny offensivement c'est un atout à l'équipe, quoi. Il peut créer des fois des trucs en sortant de nulle part, mais bon. Voilà, après c'est décision du coach qui fait jouer qui c'est qui veut, puis voilà, mais c'est sûr, ça enlève pas les qualités de Johnny offensivement.
Ouais, puis on aimerait aussi le voir, parce qu'il y a aussi les performances peut-être d'un Frédéric Gauthier qui sont aussi décevantes jusqu'à maintenant, hein. On attendait plus de son retour à Chargeois. Si on l'a engagé, c'était aussi pour le voir gagner des engagements, pour peser sur le but adverse, et puis c'est deux choses qui fait
il était un peu meilleur contre Rapperswil quand même.
33% d'engagement gagné, c'est pas
suffisant. C'est vrai que c'est un... Mais dans le jeu, je l'ai trouvé un peu meilleur que les trois premières sorties.
Oui, peut-être, en tout cas dans le premier tiers.
Ouais, après que tu parles des performances de Gauthier, ça montre aussi le step que l'équipe a pris, hein. C'est vrai que quand il est arrivé, c'était il y a 2 ans, il avait peut-être une posture un peu plus importante dans le rôle défensif, et puis on le voyait un peu plus. Mais l'équipe à côté de lui a progressé aussi, et puis il a peut-être un petit peu de mal à trouver sa place. Effectivement, par moments, je le trouve un peu maladroit ou dans ses choix, mais voilà, je pense qu'il... C'est pas peut-être... S'il y a un choix à faire pour enlever quelqu'un, moi, pour l'instant, ça serait peut-être lui.
Vic au centre, c'est la solution qui se dessine la plus claire.
Oui. Mais après, Gauthier, il a quand même joué avec Motte et Nettinen le dernier match. Donc, il était quand même bien accompagné. Mais voilà, c'est le problème, c'est que il y a 4 centres de métier au HCA Joueur en ce moment. Donc, si on en enlève un, il faudra que, par exemple, un Vic, effectivement, vire au centre. Puis derrière, c'est la même problématique, hein, avec 7 défenseurs valides.
La bande du jeudi.
Mardi soir, une situation à la patinoire quand même qui a affolé un petit peu la tribune de presse. On a vu les consultants de MySport, on a vu le consultant des RFJ avec Rafi, moi-même. On a cherché un petit peu sur Internet, mais on a cherché le règlement des tirs de pénalty, parce que on a vu une faute sur Katkins qui allait seul au goal. Et puis, un peu à notre surprise, c'est lui qui allait tirer le pénalty. Donc, on n'a pas trouvé vraiment la vraie règle, on ne sait plus vraiment la vraie règle. Je ne sais pas si toi, Louis, tu sais la règle du penalty. Est-ce que on peut choisir quel joueur va tirer le penalty?
Normalement, enfin, je connais pas le règlement par cœur, mais il me semble que c'est tu peux envoyer le joueur de ton choix.
Alors, c'est ce qu'on a finalement vérifié après moult recherches. On a trouvé le bon règlement, le bon article, et effectivement, parce que c'est vrai que cette situation nous a mis le doute, mais effectivement, d'après le règlement actuel de la Ligue, on peut envoyer n'importe le coach et même le capitaine ont le choix d'envoyer n'importe quel joueur faire le penalty. Mais du coup, Louis, il y a une hiérarchie chez vous pour les tireurs de penalty? Enfin, dans le sens, est-ce que Vetch Katkins est le tireur qui... Est-ce que c'est lui le tireur de l'équipe?
Je crois même pas qu'on ait de tireur attitré spécialement. Je pense, en général, c'est le coach qui choisit sur le moment. En tout cas, c'est pas moi qui décide, en tout cas.
Du coup, on peut clairement se poser la question de la légitimité, parce que Vetch Katkins, c'est 2 buts la saison passée, sauf erreur, il me semble même les 2 dans le même match. C'est pas le buteur né du HC Ajoie. Est-ce que le staff ne connaissait pas le règlement? C'est une possibilité. Est-ce qu'il a voulu donner du crédit à Vetch Katkins? C'en est une autre.
Voilà. Moi, j'imagine que c'est ça. C'est, entre guillemets, récompenser le joueur qui avait bénéficié de deux occasions parce qu'il a eu également un duel un peu plus tôt. Peut-être que c'était aussi, peut-être pour lui donner aussi un petit coup de fouet. S'il avait marqué, on serait pas là en train de débattre et peut-être on aurait dit quelle bonne idée de relancer ainsi avec Atkins. Mais la réalité, c'est que c'est un joueur qui manque de confiance offensive depuis son arrivée au HC Ajoie. Et puis, c'était un moment très important du match. À la 8e minute de jeu, il fallait prendre l'avantage. Il fallait reprendre le lead et puis on aurait voulu voir quelqu'un avec une vraie conviction dans l'exécution de ce penalty.
Bon, à l'époque, nous, sur la glace, on faisait le jeudi soir, on faisait Stevie, donc c'était des concours de penalty où c'est que le dernier, ben, il avait des gaffes, puis il devait ramasser les pucks et tout. Bon, peut-être que quand ils font ça à l'entraînement, c'est peut-être le meilleur joueur avec Atkins.
C'est le cas, Louis ?
Bah, à l'entraînement, il est quand même bon au penalty. Je te dis que quand on fait des fois des entraînements, il en marque assez souvent des pénalités.
Dans l'œil de la vouivre. Voilà, c'est l'heure du quiz de la bande du jeudi. C'est là qu'on va voir la différence entre de vrais journalistes et un vieil hockeyeur. Parce que j'ai donc essayé de préparer, comme vous le faites si bien, un quiz avec des questions sur les futurs adversaires du HC Ajoie. Alors merci de votre indulgence avec le rookie que je suis de la bande du jeudi. La première question, vendredi donc, le HC Ajoie se rend dans le Tessin pour y affronter il Grande Lugano. Le club a prolongé son bail à la Corner Arena. Savez-vous jusqu'en quelle année cette patinoire sera la maison des Bianconeri ?
On va laisser répondre Louis, hein. on est très poli ici.
Alors là, aucune idée, je veux dire.
Ça, j'ai vu l'info, effectivement, donc on va dire... On va dire 10 ans, je sais pas, donc je dis 2035.
Il y a pas le moins, 2031, comme ça.
Moi, je dis 2030.
Alors, c'est Rafi qui est le plus proche, ça serait jusqu'en 2039. J'ai bien réussi à vous piéger à la première question, je suis content. Ensuite, le HC Ajoie va affronter le SC Berne, qui a longtemps été la meilleure influence du championnat de hockey en Europe. Berne n'est plus l'équipe qui a le plus d'affluence durant les matchs. Savez-vous à quelle place le SC Berne se trouve et qui est passé devant ?
Il me semble que c'est Berlin qui est numéro 1 et puis Berne, il doit être deuxième.
Bien joué, Rafi. Il y a Cologne qui est passé premier avec une attendance, je vais me tromper, de 17 800 fans par match. Et puis à la deuxième position, parce qu'on a une autre équipe, c'est une équipe russe, de le SCK Saint-Pétersbourg, qui a pris la place de la deuxième place, donc qui profite maintenant de... Ça fait 2 ans qu'ils ont la plus grande patinoire d'Europe, avec 21 500 places. Donc
Berne est du coup
troisième. Malgré une augmentation de 300 spectateurs l'année passée, ils ont une moyenne de 15 821 par match, mais ils ne sont plus que troisième en Europe. Troisième question, on va la poser par rapport à Kloten, futur adversaire aussi du HC Ajoie la semaine prochaine. Combien Kloten a-t-il fait de points la saison dernière ? Ah, j'étais trop dur peut-être dans mon quiz là, quand
je
même.
Je dis, t'as un chiffre, Louis ?
Je sais pas, ils ont fait les play-in. Ouais. Donc...
Ils ont fini 7e. Hein,
je dis 72.
Avec 1,5 points par match.
Moi, je dirais
65 et 70, j'aurais dit 66.
Ouais, moi, 68.
Rafi, t'as dit combien, toi ?
72, mais il faut faire 52 fois 1,5.
Ouais, donc t'es le plus proche. Ils ont fait 79 points l'année passée.
Ouais. Ah oui, 79 et ils étaient complètement
7e. La 12e place, ces dernières années, elle se joue à peu près à quel niveau ? Question subsidiaire.
C'est autour des 70, hein. On est là, hein. 68-70.
On est souvent un point de demi par match. Hein.
Ouais, l'année passée, c'était 71 points pour assurer la 12e place. L'année avant, en 2023, c'était 65 et en 2022, 66 points. Donc, il y a du boulot encore du côté du HCA. Hein.
Ah ouais, c'est ce que je dis. La saison passée, Genève a presque gagné un match sur deux durant la saison. Et finalement, ils n'étaient même pas en play-in. Hein.
Quatrième question, on va la poser par rapport à Ludovic Weber, gardien de Kloten. On a appris aujourd'hui qu'il sera absent 2 à 3 mois pour une blessure à l'épaule. Il a signé dans une... C'est une question un peu cadeau pour vous, hein, mais il a signé d'un autre club pour l'année prochaine. Quel est ce club et qui le remplacera à Kloten ?
Mais il a signé à Fribourg et puis Berra, il a signé à Kloten.
Ouais, c'est échange de bons procédés, ouais.
Exactement, bravo. Ouais, il a fallu quand même une facile quand même dans mon quiz.
vas-y, qui a été rappelé ces jours pour jouer en pour être le numéro 2, j'imagine, en l'absence de Ludo Weber à Cloton.
C'est pas Reto Pavoni.
C'est le fils Uwe, Ewan Uwe.
Alors j'ai raté cette info. Place à la cinquième question. On va prendre par rapport au match de Fribourg qui va se jouer vendredi de la semaine prochaine. Combien de fois Non. Combien de fois le HCA Ajoie a-t-il battu Fribourg la saison dernière?
Le premier, il est perdu là-bas, ça c'est sûr.
Zéro.
Ouais, zéro ou un maximum. Mais...
Moi j'ai un blanc là, attends. Je sais pas si.
J'ai une défaite, clairement une défaite à Poran aussi, de sûr.
Ouais.
Je crois zéro.
Ouais, effectivement, la Joie n'a pas gagné l'année passée, donc si on part la bonne idée de d'ouvrir le score cette année assez rapidement, puis aller gagner un match, parce que le ratio, il est assez déficitaire pour le HCA Joie quand même, c'est 2 victoires en 16 matchs depuis leur tour en National League. On a effectivement donc gagné 0 fois l'année passée, on a gagné 1 fois 1-0 en 2024, on a gagné 1 fois en 2023 et on n'avait pas gagné en 2022.
Des adversaires contre lesquels on a fait le moins de points, du coup.
Faudrait faire les comptes, mais ouais, ça...
Je pense qu'il y a Rapperswil aussi dans la...
Ouais, dans la gonfle.
Mais on va inverser ça, on fait confiance à Louis et puis à toute l'équipe de Chargeois pour ramener une victoire lors du déplacement à Fribourg. Dernière question, c'est la question pour nos internautes, pour nos auditeurs. On l'a vu hein, ces derniers jours, Field Legend DeVos a pris la première place des compteurs du Chargeois. J'ai donc une petite question pour vous, les amis de la bande du jeudi. Je suis en tête d'un classement particulier au HCA Ajoie. Vous l'avez tous trouvé, c'est le classement des pénalités. Mais la question, c'est combien de minutes ai-je purgé durant ma carrière? Donc vous pouvez envoyer vos réponses directement sur la page consacrée à la bande du jeudi, sur le site internet des RFJ, où vous trouverez le formulaire réponse. Vous pouvez également envoyer un mail à bdj@lqj.ch, là aussi avec la réponse et vos coordonnées.
Voilà, merci Yann pour ce baptême du feu, très bon questionnaire.
Merci, c'était peut-être un peu dur hein, parce que je l'ai coincé.
C'est nous qui devons nous perfectionner, c'est pour ça. Il y a 2 semaines, pour la première, on avait posé la question de savoir qui serait le premier buteur du HCA Ajoie. Louis, on doit t'avouer que les supporters ne t'ont pas donné beaucoup de confiance. Hein. On n'a pas une réponse qui porte ton nom sur une 40aine de formulaires reçus. Il y a beaucoup de Nettinen et de Vos qui sont sortis. Ils ont savez, la saison passée beaucoup marqué. Mais tu fais taire tout le monde et tu prouves eh bien, qu'il fallait miser sur toi. Du coup, le petit cadeau, il sera pour toi, Louis.
Exact. Bah, tant mieux. Du coup, ça fait un heureux, puis c'est moi l'heureux.
C'est parfait. En attendant, bien, merci beaucoup d'avoir participé. Louis, on te souhaite évidemment une bonne suite de championnat.
Merci à vous et puis merci de m'avoir reçu.
Et puis merci également à toi Yann, à toi Rafi. On se dit à dans 2 semaines pour la prochaine bande du jeudi.
Avec plaisir et avec des points au compteur du HCA Ajoie, on espère.
Ouais, c'est sûr que dans 2 semaines, on aura la banane et puis le HCA Ajoie aura des points en plus.
C'est tout ce qu'on souhaite. À très bientôt.